chapitre 11. Ces hôtes étaient nos anciennes connaissances, Ostrodoumov et Machourina. Assis dans le petit salon, fort médiocrement meublé, de la maison de Markelov, ils prenaient de la bière et fumaient à la lueur d'une lampe à pétrole. Ils ne s'étonnèrent pas de l'arrivée de Nejdanov, car ils savaient que Markelov avait l'intention de l'amener avec lui, mais Nejdanov fut extrêmement surpris de les voir. Quand il entra, Ostrodoumov lui dit simplement « Bonjour, frère ». Le visage de Machourina devint subitement tout rouge. Elle lui tendit la main sans rien dire. Markelov expliqua à Nejdanov que leurs deux amis avaient été envoyés pour l'œuvre commune qui devait bientôt se réaliser, qu'ils avaient quitté Pétersbourg une semaine auparavant, qu'Ostrodoumov resterait dans le gouvernement de S pour la propagande et que Machourina irait à K pour avoir une entrevue avec un affilié. Markelov s'exalta tout d'un coup, bien que personne ne le contredît. Les yeux enflammés, se mordant les moustaches, il se mit à pérorer d'une voix émue et sourde, mais distincte, sur les infamies qui s'accomplissaient de toutes parts, sur la nécessité d'une action immédiate. Il affirma qu'en réalité tout était prêt, que le moindre retard serait de la lâcheté, qu'un recours à la force était indispensable, comme un coup de bistouri dans un abcès tout à fait mûr. Il répéta plusieurs fois cette comparaison du bistouri. Elle lui plaisait, évidemment. Il ne l'avait pas inventée, il l'avait lue quelque part. N'ayant plus l'espoir de voir ses sentiments partagés par Marianne, il semblait n'avoir plus rien à épargner, et ne songeait qu'à hâter le plus possible le moment d'aborder l'œuvre. Il parlait comme à coup de hache, sans aucun biais, allant droit au but avec une sorte de colère. Pesantes et monotones, les paroles sortaient une à une de ses lèvres pâlies, semblables à l'aboiement rauque d'un chien de cour, vieux et vigilant. Il déclara qu'il connaissait parfaitement les paysans et les ouvriers de fabrique des environs, et que parmi eux se trouvaient des gens solides, par exemple Eremei, du village de Galapliok, qui serait prêt à tout sur le champ. Cet Eremei de Galapliok revenait constamment sur ses lèvres. À chaque bout de phrase, il frappait sur la table, non pas avec le plat, mais avec le tranchant de la main droite, en même temps qu'il poussait devant lui l'index de la main gauche. Ses mains osseuses et velues, ce doigt levé, cette voix creuse, ses yeux en feu, produisaient une forte impression. Pendant le trajet, Markelov n'avait guère causé avec Nejdanov. La bile s'était amassée en lui, elle s'épanchait maintenant. Machourina et Ostrodoumov l'approuvaient du sourire, du regard, parfois d'une courte exclamation. Quant à Nejdanov, il se passa en lui un phénomène singulier. Au premier abord, il essaya de faire des objections. Il rappela les inconvénients de la précipitation, le danger des entreprises prématurées, insuffisamment mûries. Il s'étonna surtout que l'on eût ainsi tout décidé sans aucune hésitation, sans tenir compte des circonstances, sans même se demander au juste ce que le peuple désire. Mais peu à peu, ses nerfs, tendus comme des cordes, se mirent à vibrer violemment, et alors, avec une ardeur désespérée, presque avec des larmes de rage dans les yeux et des cris et des déchirements dans la voix, il se lança à pérorer dans le sens de Markelov, il alla même plus loin que lui. Qu'est-ce qui avait produit ce changement? Il serait difficile de le dire. Était-ce le remords de ses dernières hésitations, ou le dépit contre lui-même et contre les autres, ou le besoin enfin d'étouffer je ne sais quel ver intérieur qui le rongeait, ou le désir de faire une manifestation en présence des émissaires qu'il venait de retrouver? Ou bien était-ce réellement l'influence des paroles de Markelov qui lui avait allumé le sang? La conversation se prolongea jusqu'à l'aurore. Ostrodoumov et Machourina n'avaient pas bougé de leur siège. Markelov et Nejdanov ne s'étaient pas assis. Markelov restait fixe à la même place, absolument comme une sentinelle, et Nejdanov ne cessait de se promener de long en large, à pas inégaux, tantôt lent, tantôt rapide. Ils s'entretinrent des mesures à prendre, des moyens à employer, du rôle dont chacun devait se charger. Ils choisirent et mirent en paquet des feuillets et des brochures. Ils parlèrent d'un certain Golushkin, riche marchand Raskolnik, homme tout à fait sûr, quoique fort peu instruit, d'un jeune propagandiste, Kislyakov, Très intelligent, il est vrai, mais un peu trop vif et trop convaincu de ses mérites. On prononça aussi le nom de Solomine. « Celui qui dirige une fabrique ?» demanda Nejdanov, qui se rappela ce nom mentionné à table par Sipiagin. « Lui-même, » répondit Markelov, « il faut que vous fassiez sa connaissance. Nous ne l'avons pas encore tâté, mais c'est un homme sérieux, un homme solide. » Eremei de Galaplioc vint de nouveau en scène. On y joignit le Cyril de chez Sipiagin et un certain Mendeleïev surnommé Doutik, le gonflé. Seulement, on ne pouvait pas trop compter sur celui-ci. À jeun, il était brave, mais après avoir bu, il ne valait plus rien. Malheureusement, il était presque toujours entre deux vins. « Et parmi vos paysans, » demanda Nejdanov à Markelov, « y a-t-il des gens sur qui vous puissiez compter ?» Markelov répondit que oui, mais il ne nomma personne. Et il se lança dans des considérations sur les bourgeois des villes et sur les séminaristes, qui, par parenthèse, seraient fort utiles à cause de leur grande force corporelle. Quand cela commencerait à jouer du poing, oh, alors on verrait. Nejdanov demanda si l'on aurait avec soi quelques nobles. Markelov répondit qu'on en avait 5 ou 6, tous jeunes. L'un d'eux était même allemand d'origine et bien radical. Par malheur, c'est une chose connue, on ne peut pas se fier aux Allemands. Pour un rien, ils vous trompent et vous lâchent. Du reste, il fallait attendre les renseignements fournis par Kislyakov. « Et l'armée, les soldats ?» demanda Nejdanov. Ici, Markelov hésita, tirailla ses longs favoris, et déclara enfin que de ce côté-là, il n'y avait rien jusqu'à présent de décisif, que, du reste, il fallait attendre les renseignements de Kislyakov. « Mais quel est ce Kislyakov ?» s'écria Nejdanov, non sans impatience. Markelov sourit d'un air significatif. « C'est un homme, dit-il. Oh, un homme ! Je dois dire, je ne le connais pas beaucoup, ne l'ayant rencontré que 2 fois. Mais quelle lettre il écrit ! Quelle lettre ! Je vous les montrerai. Elles sont étonnantes. Du feu, quoi ! Et quelle activité ! Il a parcouru la Russie de long en large au moins 5 ou 6 fois, et à chaque station, c'est une lettre de 10, de 20 pages. » Nejdanov jeta un coup d'œil interrogateur du côté d'Ostrodoumov, mais celui-ci ne bronchait pas plus qu'une statue. Machourina, dont les lèvres étaient contractées par un sourire amer, ne bougeait pas davantage. Nejdanov voulut interroger Markelov sur le plan de réorganisation sociale que celui-ci avait eu l'idée de réaliser dans son domaine. Mais ici, il fut interrompu par Ostrodoumov. « À quoi bon parler de cela à présent? De façon ou d'autre, il faudra tout refaire après. » La conversation revint sur le terrain politique. Le ver intérieur qui rongeait secrètement Nejdanov continuait sa besogne. Et plus il rongeait, plus les discours de Nejdanov devenaient énergiques et même impitoyables. Il n'avait pris qu'un verre de bière, et pourtant il lui semblait par moments qu'il était tout à fait ivre. La tête lui tournait. Son cœur s'étirait à coups lents et douloureux. Et lorsqu'enfin, vers 4 heures, la discussion ayant pris fin, les interlocuteurs se furent dispersés, en évitant de heurter le petit domestique endormi dans l'antichambre, Nejdanov, avant de se mettre au lit, resta longtemps immobile, debout, les yeux obstinément fixés devant lui sur le plancher. Il entendait toujours résonner à ses oreilles ce son constamment amer qui traversait toutes les paroles de Markelov. Évidemment, cet homme avait été blessé dans son amour-propre par le refus de Marianne. Il ne pouvait pas ne pas en souffrir. Ses espérances de bonheur étaient anéanties, et pourtant, comme il s'oubliait lui-même, comme il se donnait tout entier à ce qu'il croyait être la vérité. « C'est un esprit borné, » pensait Nejdanov. « Mais ne vaut-il pas 100 fois mieux être un esprit borné comme celui-là que d'être, par exemple, ce que je me sens être en ce moment ?» Ici, il eut un mouvement de révolte contre sa propre dépréciation de lui-même. « Mais quoi ? Est-ce que, par hasard, je ne sais pas me sacrifier, moi aussi ? Un peu de patience, messieurs. Et toi, Paklin, tu verras un jour ce qu'un amateur d'esthétique et un faiseur de verre. » Il rejeta ses cheveux en arrière avec colère, grinça des dents et, dépouillant à la hâte ses vêtements, se jeta dans son lit humide et froid. « Bonne nuit !» dit derrière la porte la voix de Machourina. « Je suis votre voisine. »« Bonne nuit !» répondit Nejdanov. Il se souvint en ce moment que Machourina ne l'avait pas quitté des yeux pendant toute la soirée. « Qu'est-ce qu'elle veut ? » murmura-t-il intérieurement. Puis il eut comme un mouvement de honte. « Allons, allons, il faut dormir. » Mais ses nerfs ne lui obéirent pas, et le soleil était déjà haut dans le ciel quand il finit par s'endormir d'un sommeil lourd et pénible. Il se réveilla tard dans la matinée, avec un grand mal de tête. Il s'habilla, regarda par la fenêtre de sa chambre, et constata que Markelov n'avait pas d'établissement proprement dit. Sa maisonnette était un bâtiment isolé, non loin d'un bouquet de bois. À droite, une petite grange, une écurie, une cave couverte, une isba au toit de chaume à moitié effondrée. À gauche, un étang minuscule, un petit jardin potager, une chènevière et une seconde isba en aussi mauvais état que l'autre. Plus loin, un four à chauffer le grain, une petite aire à battre le blé et un enclos pour mettre les meules, absolument vide, voilà toutes les magnificences qui s'étalaient sous ses yeux. Tout cet ensemble, pauvre et chétif, avait l'air non d'être abandonné et revenu à l'état sauvage, mais de n'avoir jamais fleuri, comme un arbre qui a mal pris racine. Nejdanov descendit. Machourina était dans la salle à manger, assise devant le samovar. Vraisemblablement, elle l'attendait. Il apprit par elle qu'Ostrodoumov était parti pour travailler à l'œuvre et ne reviendrait pas avant 15 jours. Quant au maître de la maison, il était allé se joindre à ses ouvriers. Comme mai touchait à sa fin et que la besogne n'était pas pressée, Markelov avait eu l'idée d'entreprendre avec ses propres ressources l'abattage de son bois de bouleau, et il était allé de bonne heure se mettre à l'ouvrage. Nejdanov éprouvait une grande fatigue d'esprit. On avait tant parlé la veille de l'impossibilité d'un plus long retard, de la nécessité absolue d'agir immédiatement, mais comment agir? Et immédiatement encore. Interroger Machourina là-dessus eût été inutile. Elle ne connaissait pas l'hésitation. Elle savait clairement ce qu'elle avait à faire. C'était d'aller à K. Elle ne voyait rien au-delà. Nejdanov ne savait que lui dire. Après avoir pris un verre de thé, il mit son bonnet et se dirigea vers le bois de bouleau. Il rencontra sur son chemin des paysans, anciens serfs de Markelov, qui venaient de mener du fumier au champ. Il entama la conversation avec eux, sans en tirer grand profit. Eux aussi semblaient fatigués, mais d'une fatigue physique, naturelle, qui ne ressemblait en rien au sentiment qu'ils éprouvaient. Leur ancien seigneur, Markelov, était, disait-il, un homme pas fier, seulement un peu bizarre. Il prédisait qu'il se ruinerait, car il ne s'entend pas aux choses. Il veut tout arranger à sa façon, au lieu de faire comme ses pères. Et est trop savant avec ça. Faites ce que vous voudrez, pas moyen d'attraper un mot de ce qu'il dit. C'est un brave homme, après tout. Nejdanov continua son chemin et rencontra Markelov lui-même. Markelov marchait, entouré de toute une troupe de travailleurs. On le voyait de loin, parler, expliquer quelque chose, puis faire de la main un geste qui voulait dire « j'y renonce ». Près de lui se tenait son aide, jeune homme myope dont la tournure n'était guère imposante. Ce dernier répétait constamment « ce sera comme vous voudrez », au grand dépit du patron qui aurait voulu lui voir plus d'initiative. Nejdanov aborda Markelov et vit sur son visage l'expression de la fatigue morale qu'il éprouvait lui-même. Ils se dirent « bonjour ». Markelov se mit aussitôt à lui parler, très brièvement, il est vrai, des questions discutées la veille, de l'imminence d'une catastrophe. Mais l'expression de la fatigue ne disparut pas de son visage. Il était tout couvert de poussière et de sueur. Des copeaux de bois et des brins de mousse s'étaient attachés à son vêtement, sa voix était enrouée. Les gens qui l'entouraient gardaient le silence. On aurait su dire s'ils avaient peur de lui ou s'ils se moquaient de lui intérieurement. Nejdanov regarda Markelov, et il entendit résonner en lui-même les paroles d'Ostrodoumov. « À quoi bon parler de cela à présent? En tout cas, il faudra tout refaire après. » Un des travailleurs, qui avait commis une faute, pria Markelov de lui faire grâce de l'amende. Markelov commença par se fâcher, poussa des cris de fureur, et puis pardonna. « En tout cas, il faudra tout refaire après. » Nejdanov demanda à Markelov des chevaux et un équipage pour retourner à la maison. Markelov eut l'air fort surpris de ce désir. Il répondit pourtant que tout serait prêt dans quelques moments. Il retourna chez lui avec Nejdanov. Il chancelait en marchant, comme un homme exténué de fatigue. « Qu'avez-vous ? » lui demanda Nejdanov. Je n'en puis plus, répondit Marcelov d'un ton farouche. De quelque manière qu'on parle à ces gens-là, il n'y a pas moyen de se faire comprendre, et les ordres ne sont pas exécutés. Ils ne comprennent pas même le russe. Le mot « part » leur est très bien connu. Mais « prendre part », qu'est-ce que ça veut dire, « prendre part » Ils n'en savent rien. C'est cependant du russe, que diable! Ils se figurent que je veux leur donner une part de terrain. Marcelov avait eu l'idée d'expliquer aux paysans le principe de l'association et d'introduire ce principe chez lui, mais les paysans avaient opiniâtrement refusé. Après toutes ces explications, un vieux paysan lui avait dit « Profond était le trou jusqu'à présent, et maintenant il l'est tellement qu'on ne voit plus le fond. » Et tous les autres avaient poussé un grand soupir, ce qui avait complètement anéanti Marcelov. Arrivé chez lui, il renvoya tout le monde et prit des mesures pour faire préparer l'équipage et servir le déjeuner. Tout son personnel se composait d'un kazatchok, d'une cuisinière, d'un cocher et d'un bonhomme extrêmement vieux, aux oreilles velues, revêtu d'un caftan à longs pans en grosse cotonnade, qui avait été jadis le valet de chambre de son grand-père. Ce vieux bonhomme avait constamment les yeux fixés sur son maître, avec une expression d'indicible tristesse. Du reste, il ne faisait rien, et il était probablement incapable de rien faire. Mais il se tenait toujours là, présent à l'appel, assis sur le rebord du perron. Après le déjeuner, composé d'œufs durs, de petites sardines et d'un hachis de viande et d'oignons, le kazatchok offrait la moutarde dans un vieux pot à pommade et le vinaigre dans un flacon à eau de Cologne, Nejdanov monta dans un tarantas, le même qu'il avait amené la veille. Mais, au lieu d'une troïka, il n'y avait que deux chevaux. Le troisième boitait. On l'avait blessé en le ferrant. Pendant ce temps, Marcelov était resté presque muet, mangeant peu et respirant avec effort. Il lâcha deux ou trois paroles amères à propos de son domaine et fit de nouveau un geste de renoncement et de fatigue. En tout cas, il faudra tout refaire après. Machourina pria Nejdanov de la conduire jusqu'à la ville où elle voulait faire quelques achats. « Quant au retour, dit-elle, je trouverai bien une place dans une télègue. Du reste, rien ne m'empêche de revenir à pied. » En les accompagnant jusqu'au perron, Marcelov rappela à Nejdanov qu'il irait bientôt le voir, et qu'alors, cette idée le ragaillardit subitement, alors on prendrait les arrangements définitifs. Il ajouta qu'à cette époque, Solomine arriverait aussi, que lui, Marcelov, attendait seulement un mot de Vassili Nikolaïevitch, et qu'alors il ne resterait plus qu'une chose à faire, agir, immédiatement, car la patience du peuple était à bout. La patience du peuple, du même peuple qui ne comprenait pas les mots « prendre part ». À propos, dit Nejdanov, et ces lettres que vous vouliez me montrer, les lettres de, comment l'appelez-vous, Kislyakov. Plus tard, répondit vivement Marcelov, nous verrons tout ça en même temps. Le tarantas s'ébranla. Soyez prêts, cria une dernière fois la voix de Marcelov. Il était debout sur le perron, et près de lui, avec son éternelle tristesse dans le regard, joignant les mains derrière le dos, redressant sa taille voûtée, répandant une odeur de pain de seigle et de vieille cotonnade, et n'entendant rien de ce qu'on disait, près de lui se tenait le serviteur modèle, le valet de chambre décrépit de son grand-père. Machourina, pendant le voyage, fuma silencieusement une cigarette. En approchant de la barrière, elle poussa tout à coup un gros soupir. « Il me fait peine, ce pauvre Marcelov, » dit-elle, et son visage s'assombrit. « Oui, » répondit Nejdanov, « il se donne beaucoup de mal pour rien. Ses affaires n'ont pas l'air de bien marcher. »« Oh, ce n'est pas pour cela. »« Pourquoi donc ? » ?»« Il est malheureux, il n'a pas de chance. Où trouver un meilleur que lui ? Et pourtant, on n'en veut pas. » Nejdanov la regarda. « Est-ce que vous avez appris quelque chose ?»« Je n'ai rien appris, mais chacun sent cela par soi-même. Adieu, Alexis Dmitritch. » Machourina descendit du tarantas, et une heure plus tard, Nejdanov entrait dans la cour de la maison Sipiaguine. Il ne se sentait pas bien, cette nuit sans sommeil, et puis toutes ces discussions, tous ces discours. Un charmant visage le regardait derrière une fenêtre et lui souriait amicalement. C'était Madame Sipiaguine qui accueillait son retour. « Quels yeux elle a !» pensa-t-il en lui-même. Chapitre 12. Après le dîner, qui avait réuni beaucoup de monde, Nejdanov profita de l'inattention générale pour s'esquiver et rentra dans sa chambre. Il avait besoin de se trouver seul avec lui-même, ne fût-ce que pour mettre un peu d'ordre dans les impressions qu'il rapportait de son voyage de la veille. Pendant le repas, Madame Sipiagine l'avait regardé attentivement à plusieurs reprises, mais sans avoir l'occasion sans doute de causer avec lui. Quant à Marianne, depuis la démarche inattendue qui l'avait tant étonnée, elle avait l'air d'éprouver une sorte de gêne et de le fuir. Nejdanov prit une plume. Il avait envie de causer avec son amie Céline, mais il ne trouva rien à dire, même à son amie. Peut-être ne parvenait-il pas à débrouiller les idées et les sentiments opposés qui se heurtaient dans sa tête. Il renvoya tout cela au lendemain. Kalomeitsev était au nombre des convives. Jamais il n'avait si bien montré que ce jour-là sa dédaigneuse arrogance de gentleman. Mais l'outrecuidance de ses discours agissait peu sur Nejdanov, qui les remarquait à peine. Le jeune homme était comme environné d'un nuage. On eût dit un rideau à demi opaque baissé entre lui et le reste du monde. Et, chose étrange, à travers ce rideau s'entrevoyaient seulement trois figures de femmes, qui toutes les trois dirigeaient obstinément leurs regards sur lui. C'était Madame Sipiagine, Machourina et Marianne. Qu'est-ce que cela voulait dire? Et pourquoi ces trois figures-là? Qu'avaient-elles de commun? Et que lui voulaient-elles? Il se coucha de bonne heure, mais sans pouvoir s'endormir. Il lui vint des pensées tristes, des pensées sombres, grises pour mieux dire, des pensées de fin inévitable, de mort prochaine. Elles lui étaient devenues familières. Il les tournait et les retournait en tous sens, reculant tantôt avec une secrète horreur devant la probabilité de l'anéantissement et l'accueillant tantôt presque avec joie. Il finit par ressentir une émotion particulière qui lui était bien connue. Il se leva, s'assit devant son bureau, rêva un moment, puis écrivit presque sans rature les vers suivants. « Quand je mourrai, cher ami, voici mes dernières volontés. Détruis aussitôt toutes mes inutiles paperasses. Entoure-moi de fleurs, laisse entrer le soleil dans ma chambre, derrière la porte ouverte, place des musiciens. Interdis-leur les chants lugubres. Que la valse insolente, comme à l'heure du festin, pousse ses cris perçants sous les coups de l'archet. Tout en buvant, avec mon oreille affaiblie, les sons mourants des cordes frémissantes, je mourrai aussi comme eux, je m'endormirai. Et n'ayant pas troublé par de vains gémissements le calme qui précède la fin, je m'en irai dans un autre monde, bercé par le bruit léger des joies légères d'ici-bas. » En écrivant le mot « ami », c'était à Céline qu'il pensait. Il déclama ses vers à demi-voix et fut étonné de voir ce qui était sorti de sa plume. Ce scepticisme, cette indifférence, cette incrédulité légère, comment tout cela s'accordait-il avec ses principes, avec ce qu'il avait dit à Markelov? Il jeta le cahier dans le tiroir de sa table et retourna à son lit. Mais il ne s'endormit qu'au matin, alors que les premières alouettes tintaient comme des clochettes dans le ciel blanchissant. Le lendemain, comme, après avoir fini de donner sa leçon, il venait de s'asseoir dans la salle de billard, Madame Sipiagine entra, regarda autour d'elle, et, s'approchant de lui avec un sourire, elle l'invita à passer dans son cabinet. Elle portait une légère robe de barège, très simple et très jolie. Les manches garnies de ruches n'atteignaient pas plus bas que le coude. Un large ruban entourait sa taille, ses cheveux tombaient sur son cou en tresses arrondies. Tout en elle respirait le bon accueil et la caresse, une caresse circonspecte et encourageante. Tout, depuis l'éclat adouci de ses yeux à demi-clos et la longueur nonchalante de sa voix, jusqu'à ses mouvements et à sa démarche. Madame Sipiagine emmena Nejdanov dans son cabinet. C'était une pièce commode, agréable, tout imprégnée de l'odeur des fleurs et des parfums, de la propreté fraîche des vêtements féminins, de la présence constante d'une femme. Elle le fit asseoir dans un fauteuil, s'assit elle-même auprès de lui, et commença à le questionner au sujet de son voyage, de la manière de vivre de Markelov, et tout cela d'une façon si réservée, si bonne, si douce. Elle portait un intérêt si sincère à tout ce qui concernait son frère, duquel jusqu'à ce jour elle n'avait jamais parlé en présence de Nejdanov. Certaines de ses paroles laissaient deviner que le sentiment inspiré par Marianne n'avait pas échappé à son attention. Elle s'en attrista un peu. Était-ce parce que ce sentiment n'avait pas été partagé par Marianne, ou bien parce que le choix de son frère était tombé sur une jeune fille qui, au fond, lui était étrangère? Ce point resta obscur. Mais avant toute chose, elle s'efforçait visiblement d'apprivoiser Nejdanov, de lui inspirer de la confiance, de l'obliger à sortir de sa réserve. Madame Sipiagin sembla même s'affliger qu'il ne la comprît pas entièrement. Nejdanov l'écoutait, regardait ses mains, ses épaules, jetait de temps en temps un rapide coup d'œil sur ses lèvres roses, sur les boucles de ses cheveux qui se balançaient tout doucement pendant qu'elle parlait. Les premières réponses de Nejdanov avaient été très brèves. Il sentait un poids sur la poitrine et de la gêne dans le gosier. Peu à peu, cependant, cette impression se transforma en une autre, tout aussi inquiète, mais non exempte d'agrément. Il n'avait jamais pu s'imaginer qu'une femme si distinguée, si jolie, une aristocrate, fut capable de s'intéresser à lui, pauvre diable d'étudiant. Et non seulement Madame Sipiagin s'intéressait à lui, mais même elle faisait quelque peu la coquette. « Pourquoi est-elle ainsi ?» se demandait-il. Il ne trouvait pas de réponse. À vrai dire, il n'éprouvait pas le besoin d'en trouver une. Madame Sipiagin parla de Kolia. Elle commença même par affirmer à Nejdanov que, si elle avait désiré une entrevue avec lui, c'était dans l'unique intention de connaître ses idées sur l'éducation des enfants en Russie. La façon soudaine dont ce désir lui était venu pouvait paraître un peu étrange. Au fond, il s'agissait bien de cela. La vérité, le mot de l'énigme, c'est qu'un souffle vague, un je ne sais quoi de sensuel était venu l'effleurer, et qu'elle éprouvait le besoin de subjuguer, de courber à ses pieds cette tête indocile. Mais il nous faut remonter un peu en arrière. Valentine Mikhailovna était fille d'un général fort médiocre et obscur qui avait obtenu un seul crachat et la boucle au bout de 50 ans de service, et d'une petite Russienne très fine et très rusée qui avait cet air simple et presque niais qu'ont beaucoup de ses compatriotes et qui savait tirer de son extérieur un excellent parti. Les parents de Madame Sipiagin n'étaient pas riches. Elle fut néanmoins élevée au couvent de Smolna, où son application et sa conduite exemplaire lui valurent les bonnes grâces de ses supérieurs, quoiqu'elle fût regardée comme une républicaine. À sa sortie du couvent, son frère était rentré dans leur petit domaine, et le général décoré et bouclé était mort, elle s'installa avec sa mère dans un appartement proprement arrangé, mais tellement froid que l'haleine des gens qui parlaient se condensait en une légère vapeur. Valentine disait en riant, « C'est comme à l'église ». Elle supporta courageusement tous les ennuis de cette existence étroite et mesquine, grâce à son caractère d'une égalité merveilleuse. Avec l'aide de sa mère, elle parvint à nouer et à entretenir des relations. Tout le monde, même dans les hautes sphères, parlait d'elle comme d'une charmante jeune fille, très instruite et très comme il faut. Les parties ne manquaient pas. Elle choisit Sipiagin parmi tous les autres et le rendit amoureux d'elle en un tour de main. Du reste, Sipiagin lui-même comprit bien vite que c'était la femme qu'il lui fallait. Elle était intelligente, pas méchante, bonne plutôt, foncièrement froide et indifférente, et pourtant elle n'admettait pas que l'on pût rester indifférent à côté d'elle. Valentine possédait ce genre particulier de grâce câline et tranquille qui est le propre des égoïstes aimables. Cette grâce où il n'y a ni poésie ni sentiment véritable, mais qui respire la bienveillance, la sympathie est même une sorte de tendresse. Seulement, ces charmants égoïstes n'aiment pas à être contredits. Ils sont despotiques et ne supportent pas l'indépendance chez les autres. Les femmes telles que Madame Sipiagin agitent et troublent les gens naïfs et passionnés. Elles-mêmes préfèrent à toute chose la vie régulière et calme. Leur vertu leur est facile, rien ne les émeut, mais leur constant désir de commander, d'entraîner et de plaire finit par leur donner de la mobilité et de l'éclat. Elles ont une volonté forte, et c'est précisément de cette volonté que vient en grande partie leur prestige. Quand, dans une de ces créatures impassibles et sereines, semble s'éveiller tout à coup et courir en fugitives étincelles une langueur involontaire et secrète, le moyen de lui résister. On se dit que l'heure est arrivée, que la glace va fondre, mais la glace étincelante a beau jouer et lancer ses rayons, Elle ne fondra jamais, et jamais ne se troublera. Madame Sipiagine pouvait bien se hasarder à faire un peu de coquetterie. Elle savait qu'il n'y avait là, qu'il ne pouvait y avoir aucun danger pour elle. Mais faire à volonté s'allumer ou s'assombrir les yeux d'un autre, appeler sur les joues d'un autre la rougeur du désir ou de la crainte, forcer une voix étrangère à trembler ou à se briser, jeter le trouble dans l'âme d'autrui, oh, que cela était doux et charmant pour son âme à elle. Et le soir, très tard, quand elle s'étendait dans sa blanche couche pour y goûter un paisible sommeil, quel plaisir de se rappeler ses paroles émues, ses regards suppliants, ses soupirs anxieux. Quel sourire satisfait touchait ses lèvres quand elle rentrait en elle-même pour y retrouver la conscience de son inaccessibilité, ou bien quand elle daignait recevoir les caresses légitimes de l'homme bien élevé qui était son époux. Ses pensées lui étaient si agréables que parfois elle en éprouvait de l'attendrissement, elle se sentait prête à accomplir quelque bonne action, à venir en aide au prochain. Un jour, un secrétaire d'ambassade, amoureux d'elle jusqu'à la folie, ayant essayé de se couper la gorge, elle avait fondé un petit hospice en son honneur. Elle avait sincèrement prié pour ce jeune homme, quoique le sentiment religieux eût toujours été très faible chez elle, dès sa plus tendre enfance. Donc, elle causait avec Nechtanov, cherchant par tous les moyens à le courber sous ses pieds. Elle se faisait accessible, elle se dévoilait pour ainsi dire devant lui, et elle regardait avec une aimable curiosité, avec une tendresse quasi maternelle, comment ce joli garçon, ce radical intéressant et farouche, venait vers elle d'une allure maladroite et lente. Un jour, une heure, une minute après, tout cela aura disparu sans laisser de traces. Mais en attendant, elle éprouvait un plaisir mêlé d'envie de rire, d'un peu d'effroi et même de mélancolie. Oubliant quelle était la naissance de Nechtanov, et sachant combien des questions de ce genre font plaisir à ceux qui sont isolés dans la vie, elle l'interrogea sur ses premières années, sur sa famille. Mais les réponses brèves et embarrassées du jeune homme lui firent aussitôt deviner qu'elle avait fait fausse route, et, pour essayer de réparer sa faute, elle se livra un peu plus. Telle, sous la pénétrante chaleur de midi en été, une rose ouverte écarte encore davantage ses pétales parfumés, que viendra resserrer et replier sur eux-mêmes la fraîcheur fortifiante de la nuit. Elle ne parvint cependant pas à réparer complètement sa bévue. Touchée au vif de sa blessure, Nechtanov ne pouvait se laisser aller comme auparavant. L'amertume qu'il portait toujours en lui, qu'il sentait toujours au fond de son être, vint se soulever de nouveau. Ses méfiances et ses rancunes démocratiques se réveillèrent. « Ce n'est pas pour cela que je suis venu ici, » pensa-t-il. Il se souvint des réflexions moqueuses de Paklin, et, profitant du premier temps d'arrêt de la conversation, il se leva, fit un bref salut et sortit bêtement, comme il se le dit involontairement à lui-même. Son trouble n'avait pas échappé à Madame Sipiagine. Mais, à en juger par le sourire dont elle accompagna sa sortie, elle interprétait ce trouble d'une façon avantageuse à elle. En entrant dans la salle de billard, Nechtanov rencontra Marianne. Les mains fortement croisées, debout non loin de la porte du cabinet, elle tournait le dos à la fenêtre. Son visage était dans une ombre presque noire. Mais ses yeux hardis regardaient le jeune homme avec une telle persistance interrogatrice, ses lèvres serrées exprimaient un tel dédain, une pitié si injurieuse, qu'il s'arrêta d'un air irrésolu. « Vous avez quelque chose à me dire » fit-il. Marianne resta un moment sans répondre. « Non. Eh bien, oui, mais pas maintenant. »« Quand donc ?»« Nous verrons. Peut-être demain. Peut-être jamais. Après tout, je ne sais pas au juste ce que vous êtes. » Il m'avait pourtant semblé, commença Nechtanov, qu'entre nous... « Et vous, vous ne me connaissez pas du tout, » interrompit Marianne. « Mais attendez. » « Demain, peut-être. En ce moment, il faut que j'aille chez ma maîtresse. À demain. » Nechtanov fit deux pas pour s'en aller, puis se retourna brusquement. « À propos, Marianne Vikentievna, j'ai voulu tous ces jours-ci vous demander la permission d'aller à l'école avec vous pour voir quelles y sont vos occupations, en attendant qu'on la ferme. Fort bien, mais ce n'est pas de l'école que je voulais vous parler. » « Et de quoi donc ?»« Demain, » répéta Marianne. Mais elle n'attendit pas le lendemain. La conversation qu'elle voulait avoir avec Nechtanov eut lieu le même jour, dans une des allées de tilleuls qui commençait non loin de la terrasse.